Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée sur RTL. Elisabeth Martichoux reçoit ce matin Nicolas Hulot.
Bonjour Nicolas Hulot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. Pour aller droit au but, ce qui vous sidère et vous consterne même, je crois qu'on peut le dire, c'est l'absence du thème de l'environnement dans le débat public qui pourtant n'a pas manqué d'être passionné ces dernières semaines. Ça le temps pour l'écologie en France? Elle a même tendance à régresser?
Bon, la campagne n'est pas finie, il y a encore 5 mois, donc il est temps de redresser la barre. Et j'espère que la classe politique va se ressaisir, simplement parce que je leur accorde une sincérité sur le fait qu'ils ont à cœur le bien-être des Français. Mais le bien-être des Français, il passe par la préoccupation de ces sujets. Il y a eu un sondage qui est sorti, je crois, la semaine dernière, qui a été fait par l'IFOP, commandé par le WWF, qui montre que 3/4 des Français souhaitent qu'on aille beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Ils sont très préoccupés par un sujet dont on ne parle jamais, sujet santé et environnement. C'est quand même un sujet crucial.
Alors, la santé, on en parle sous l'angle de la santé publique.
Oui, mais pas sous l'angle de la santé et l'environnement. On consacre 0,1% du budget de la santé à la prévention. Très sincèrement, dans le sujet santé-environnement, on devrait s'y intéresser. Je pense que même sur un plan purement économique, on ferait des économies en aval. Voilà. On a eu le 20e siècle qui était le siècle de l'hygiène bactériologique. Le 21e siècle, il faudrait qu'il soit le siècle de l'hygiène chimique. Et notamment, croyez-moi, dans le domaine agricole, les paysans s'en porteraient beaucoup mieux si on s'intéressait notamment aux effets de la chimie.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet des propositions pour voir quelles sont les alternatives. Mais une petite question par parenthèse. Vous avez voté à la primaire de la droite et du centre?
Non, je n'ai pas voté à la primaire de la droite et du centre.
François Fillon a été élu à une écrasante majorité à l'issue de ce scrutin dimanche. Il est pro-nucléaire et il veut remettre en cause le principe de précaution qui est un peu votre bébé, puisque c'est sous votre impulsion que Jacques Chirac l'avait fait entrer dans la Constitution. C'est grave de vouloir en le remettre en cause?
Oui,
ça veut dire quoi?
Oui, enfin, c'est symptomatique et ça me désole parce que je dis ça sans aucune flagornerie, mais je pense que tout le monde s'accorde pour dire que cet homme est intelligent.
Vous le connaissez parce qu'en plus, à Matignon, à un moment, il a été.
C'est dommage que quelqu'un qui visiblement est proche des milieux catholiques n'ait pas été plus inspiré par l'encyclique du pape, qui est au moins un avertissement qui transcende tous les clivages politiques et qui pose ce sujet en haut de la pyramide de nos priorités. Le principe de précaution, très sincèrement, la jurisprudence sur ce principe qui a été adossé à notre Constitution est très faible. Ça serait une régression que de revenir en arrière. D'être pro-nucléaire, vous savez que moi je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais enfin les faits sont là, et notamment sur un plan économique. C'est un mode de production énergétique qui nous emmène dans des dérives financières absolument terrifiantes. Et je pense que la démonstration encore récente des coûts induits, des conséquences de Fukushima au Japon, devrait nous amener à beaucoup plus de mesures.
Mais commençons lui dit, pour sauver le climat, je suis pro-nucléaire pour sauver le climat.
C'est un débat qui a lieu d'être, mais on voit bien aujourd'hui que la solution qui est en train de se dessiner, ce sont les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, et notamment le solaire, dont le coût en l'espace de 10 ans a été divisé par 4. C'est ça l'avenir, les Chinois l'ont compris, y compris les Indiens, même s'ils vont utiliser une partie du charbon qu'ils ont sous les pieds, font le pari de développer massivement les énergies solaires. Vous savez, on parle beaucoup d'indépendance énergétique. Gardons à l'esprit que le nucléaire ne nous met pas dans une situation d'indépendance énergétique. Les matériaux fossiles, il faut bien aller les chercher quelque part. Et les pays qui détiennent ces matériaux-là, on n'est pas garanti sur la longueur de pouvoir s'approvisionner comme on le faisait dans le passé.
On gagne en indépendance qu'on perd en dépendance de l'autre. Nicolas Sarkozy, en campagne à l'époque, avait rappelé que l'écologie, l'environnement, ce n'était pas la préoccupation majeure des Français. Et c'est vrai que les clivages dans le débat public, ils s'organisent autour du nombre de fonctionnaires. On parlait de la santé, mais la santé publique, les remboursements, les comptes publics, la fiscalité. Les Français ne perçoivent pas les alternatives écologiques sur ce thème-là.
Moi, je peux comprendre que les Français qui sont en proie à des préoccupations urgentes, quotidiennes et des souffrances palpables ne soient pas spontanément sensibilisés, bien que le sondage vient de démontrer tout à fait le contraire. La seule chose, c'est que c'est à la classe politique à leur proposer des alternatives et faire en sorte que ces alternatives ne soient pas pénalisées.
Donnez un exemple.
Non, mais je prends un simple exemple. L'Assemblée nationale vient de voter l'idée que 20% de l'approvisionnement des cantines scolaires se fasse à travers le bio. Voilà une très bonne initiative. Mais si on veut aller plus loin, pour structurer nos modes de production et de modes de consommation vers la transition écologique et énergétique, qui est la clé de voûte de l'économie de demain. La fiscalité, c'est un très bon outil. Sauf qu'on a toujours abordé la fiscalité écologique comme une fiscalité additionnelle. Quand on arrive avec l'écotaxe, après avoir
empilé plus d'impôts, quoi.
Plus d'impôts. Ouais. Mais
pour financer,
et donc, c'est normal,
transition.
Puisque la gauche comme la droite ont toujours traité la fiscalité écologique à côté d'une réforme de la fiscalité. Il y a un grand projet qui pourrait vraiment nous emmener dans une véritable transition, créer des emplois. L'idée, c'est de déplacer la fiscalité qui pénalise le travail, et vous savez que la majorité de nos prélèvements obligatoires pénalisent le travail. Non, mais c'est vraiment important, bien entendu.
Ouais.
Et en soulageant cette fiscalité, vous allez doper l'emploi, mais vous allez baisser les recettes de l'État. Et là, vous asseyez la fiscalité sur deux assiettes. Premièrement, vous taxez les prélèvements énergétiques et les prélèvements des ressources naturelles, vous taxez la pollution. Et deuxièmement, vous taxez les revenus qui ne sont pas issus du travail. C'est avec cette vision-là.
Les rentes,
et puis vous avez la fiscalité incitative et dissuasive. Parce que quand vous avez de la fiscalité incitative et dissuasive, petit à petit, vous allez développer massivement les modes de production et les modes de consommation qui vont dans le bon sens. Vous allez faire tomber les coûts et vous allez rendre accessibles les logements rénovés. Vous allez rendre accessibles la nourriture biologique, les produits qui vont bien avec l'écologie, aux classes moyennes ou aux classes défavorisées.
Mais qui pour porter ce discours, Nicolas Hulot?
Au moment où on parle, personne.
Vous allez voir d'ailleurs François Fillon, vous allez en parler avec lui, en débattre.
Mais on va essayer.
Il est assez loin de votre projet.
Dans la société civile, dans le tissu des ONG, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se mettre en œuvre. On essaiera d'occuper un espace pour faire valoir ces propositions. Mais un ensemble d'ONG, d'interlocuteurs qui sont désespérés que ces sujets-là ne sont... Vous savez, ça n'est pas parce que ces sujets-là sont absents de la campagne qu'il n'y a pas une aspiration profonde, intime et cruciale d'une grande partie de nos concitoyens sur ces sujets-là. Ce qui manque, c'est de relais. Et comme jusqu'à présent, on a sous-traité l'écologie à un parti qui a eu des difficultés.
Aussi.
Oui, mais parce que l'écologie, elle ne devrait pas être verte, elle devrait être bleu, blanc, rouge. Et ce qui est une aberration au début du XXIe siècle, c'est que les grandes formations politiques ont une espèce d'indifférence, parfois même d'aversion sur des sujets qui conditionnent tout le reste. Garde juste à l'esprit que ce n'est pas un sujet optionnel. Tous leurs projets démocratiques, économiques sont conditionnés par ces sujets-là. Croyez-moi que si les changements climatiques, pour ne parler que de cela, nous échappent, eh bien on aura beau jeu, on sera assis à la table des conséquences et on n'aura que nos yeux pour pleurer.
Mais Nicolas Hulot, les auditeurs qui vous entendent, ils sont comme moi, qui vous regardent et qui disent « Mais pourquoi il n'y est pas allé, Nicolas Hulot ?»
Je ne suis pas allé parce que moi je suis étonné de voir qu'il y a tous les matins un candidat nouveau et pour lequel ça ne semble pas poser d'état d'âme. Voilà. Personnellement,
Ça vous en a posé.
Oui, parce que je sortais de 3 ans consacrés notamment au succès de la COP21. J'avais besoin d'un peu de répit et tout d'un coup, cette opportunité s'est présentée. Je me sentais pas prêt pour dire les choses très, très spontanément.
Parce que Yannick Jadot est donc sorti vainqueur. C'est un ancien de Greenpeace. Lui, c'est un écolo de terrain. On ne peut pas du tout douter de ses sincérités, de ses convictions. Mais il est complètement inconnu. La star de l'écologie, c'est encore vous
non,
aujourd'hui.
Je sais bien que ça va être difficile pour lui. D'ailleurs, sa première priorité, ça va être de reconstruire son propre camp. Mais il ne faut pas s'en tenir là dans les prétentions et les ambitions de la campagne. Il faut que dans cette campagne, l'écologie au sens noble du terme, au sens transpartisan du terme, au sens impératif absolu, il faut que ça devienne un sujet central.
Mais ça
vaut également pour les observateurs ou les commentateurs que vous êtes. Parce que ne laissez pas, encore une fois, cet angle mort perdurer dans la campagne présidentielle.
Vous êtes là, Nicolas Hulot, dans notre studio d'RTL. Vous préférez secouer les mauvaises consciences de l'extérieur, en fait.
Oui, enfin, l'idée n'est pas de culpabiliser. L'idée est de responsabiliser. Et même, encore une fois, pardon d'insister là-dessus, mais la sortie des énergies fossiles peut être le moteur de l'économie de demain. Donc, ce n'est pas simplement un sujet environnemental. Alors, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet de civilisation, parce que pose la question du sens, du beau progrès, mais c'est aussi un sujet économique. Mais c'est aussi, surtout, un sujet de dignité humaine et de justice sociale.
Vous n'êtes pas allé à la présidentielle, vous l'avez dit en juillet. Vous faites quoi aujourd'hui, Nicolas Hulot ?
Eh bien, je travaille notamment avec ma propre fondation et d'autres ONG, pas simplement des ONG environnementales, à la meilleure manière d'intervenir dans le débat présidentiel une fois que le casting se sera un peu précisé.
Précisément, le Premier ministre et le Président se déchirent sous nos yeux pour savoir qui sera candidat à la primaire. Vous les renvoyez dos à dos? Vous avez une préférence entre les deux?
Non. Je ne me préoccupe pas de ça parce que c'est leur responsabilité. Je veux simplement dire que moi, j'ai eu la chance pendant 3 ans aux côtés de François Hollande de travailler sur ces sujets-là. Je reconnais que la France a pris un leadership qui est reconnu à l'échelle mondiale. Et je suis simplement reconnaissant de son engagement sur ce sujet-là. Maintenant, il reste 5 mois et y compris notre gouvernement actuel, peut faire encore plus vite et encore mieux.
D'ici 5 mois.
Mais en 5 mois, c'est énorme.
Une nouvelle loi sur l'écologie.
Mais ne serait-ce que planifier la transition écologique. Il va y avoir des conversions d'emplois. Cette planification qui va permettre d'engager le gouvernement précédent, ça serait bien que le gouvernement actuel prépare la transition écologique.
Une proposition, dites-lui. Il y a une proposition en 5 mois que vous pouvez mettre sur la table pour prouver votre foi.
Créer simplement une sorte de comité qui va réunir sur la durée les partenaires sociaux, les acteurs économiques et qui va regarder, là, il va y avoir des nouveaux emplois, là, il va y avoir besoin de faire de la formation pour passer d'une filière à une autre. On va sortir du charbon, par exemple. Bon, et c'est un engagement que la France a pris. Mais on ne peut pas imposer à des salariés une sortie brutale sans avoir préparé la transition.
Voilà, c'est sur la table, c'est signé Nicolas Hulot. On verra quel candidat le reprend à son compte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce studio d'RTL. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver cet entretien sur le site rtl.fr.